Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Nous sommes le dimanche 17 août, il est 13h sur la radio SBS. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre programme en français. Merci de l'écouter. Je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble. Et comme tous les dimanches, nous allons vous présenter le personnage qui a marqué la semaine. Cette semaine, on consacre notre portrait à Kathleen Folbig, celle qui a été un jour appelée la pire tueuse en série de l'Australie. Elle a été graciée en 2023. Aujourd'hui, elle conteste son indemnisation, 2 millions de dollars, pour avoir passé 20 ans en prison. À tort. Alors, qui est-elle vraiment? Eh bien, réponse dans un instant avec François Vantôme, mais d'abord une chanson, Paris Melbourne, de Sophie Morin.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Soleil couchant, votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50, 37 degrés sud, 144 degrés est, Melbourne.
Le personnage de la semaine, le personnage qui a marqué l'actualité, eh bien aujourd'hui on va parler de Kathleen Folbig, cette femme de 58 ans qui un jour a été surnommée la pire tueuse en série de l'Australie. Elle a été graciée en 2023 après avoir passé 20 ans derrière les barreaux, 20 ans de prison pour avoir tué ses 4 enfants. Sauf que voilà, des nouveaux tests génétiques ont montré que ses 4 enfants étaient vraisemblablement morts de causes naturelles, jetant un doute raisonnable sur sa culpabilité. Kathleen Folbig, un an plus tard, en 2024 a demandé une compensation financière. Eh bien, le montant vient de tomber. Kathleen Folbig a droit à 2 millions de dollars australiens. Une insulte, une baffe dans la figure, c'est ce qu'elle a rétorqué. On va dresser son portrait avec François Vantôme. Bonjour François, est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur le contexte de cette affaire et sur la condamnation?
Kathleen Folbig a été condamnée en 2003 pour le meurtre de ses 4 enfants, Caleb, Patrick, Sarah et Laura. Les enfants, qui avaient tous moins de 4 ans, sont décédés entre 89 et 99 dans des circonstances tragiques et troublantes. Au moment de leur décès, les autorités ont initialement suspecté Kathleen de maltraitance et de négligence, conduisant à son arrestation et à son procès où elle a été déclarée coupable. Elle a été surnommée la pire tueuse en série d'Australie, une étiquette qui a profondément marqué sa réputation et sa vie personnelle. La principale preuve à l'appui de la condamnation de Kathleen reposait sur la théorie selon laquelle il était improbable que 4 enfants d'une même famille meurent de causes naturelles. Les experts en pédiatrie ont également évoqué des raisons médicales complexes alimentant la conviction que Kathleen était responsable de leur décès.
Oui, mais voilà, retournement de situation 20 ans plus tard, on l'a dit en introduction, l'apparition de nouvelles preuves médicales. Qui innocente Kathleen ?
En 2023, après presque 20 ans d'emprisonnement, la situation de Kathleen a pris un tournant lorsqu'un groupe de scientifiques a présenté de nouvelles preuves. Des tests génétiques réalisés sur les enfants ont montré que plusieurs d'entre eux auraient pu mourir de conditions médicales naturelles, telles que des anomalies cardiaques ou des facteurs génétiques. Ces nouvelles analyses ont soulevé des doutes raisonnables quant à la culpabilité de Kathleen, entraînant l'annulation de ses condamnations par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. Kathleen a déclaré qu'en étant libérée, elle avait ressenti un mélange de soulagement et de choc tout en devant faire face aux cicatrices laissées par ses années derrière les barreaux.
Cela fait 2 ans maintenant que Kathleen Folbig est sortie de prison, mais un autre combat s'impose à elle, François, la quête de compensation jugée raisonnable.
En effet, bien que Kathleen a été exonérée, elle se débat encore avec la réalité de sa vie après la prison. Elle a rapidement commencé à chercher une compensation pour les années perdues en détention. En juillet 2024, Elle a déposé une demande de paiement ex gratia au gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, mais le processus traîne et elle a exprimé son mécontentement face à la lenteur des démarches. Dans un communiqué, elle a décrit la somme proposée de 2 millions de dollars comme étant insultante, soulignant le besoin de la remplacer par un montant qui reflète véritablement les préjudices qu'elle a subis. Kathleen a indiqué que les coûts de la vie ont considérablement augmenté depuis 2003, rendant ses espoirs de reconstruire une vie stable encore plus difficiles. Elle a également partagé sa préoccupation concernant ses futurs besoins, notamment qu'elle nécessiterait des soins de santé mentale à long terme pour traiter les traumatismes qu'elle a endurés. Pour Kathleen, récupérer un certain niveau de confort financier était essentiel pour reconstruire sa vie après avoir perdu les meilleures années de sa vie en prison. Kathleen Folbig a également exprimé sa confusion et son choc face au manque de transparence quant à la façon dont le gouvernement de l'État a déterminé ce montant de 2 millions. Elle a déclaré « Est-ce de l'argent pour faire avancer les choses ou est-ce juste OK ? Nous devons juste nous en débarrasser. » Lorsqu'on lui a demandé combien le gouvernement de l'État aurait dû lui verser, elle a répondu qu'elle était incapable de mettre un chiffre dessus. « Comment mettez-vous un prix sur votre vie » a-t-elle répliqué.
Alors, Kathleen Folbig a affronté le système judiciaire pour prouver son innocence. Mais ce que vous allez nous dire maintenant, c'est comment elle a été confrontée à une réponse, disons, plutôt froide des autorités gouvernementales.
Elle a demandé à rencontrer le Premier ministre du New South Wales, Chris Minns, pour discuter de sa situation, mais cette demande a été refusée. M. Minns a affirmé que l'affaire était en cours d'évaluation par le procureur général et qu'il ne considérait pas opportun de discuter avant que celui-ci ne prenne une décision. M. Minns a rejeté les suggestions selon lesquelles le procureur général aurait fixé ce montant parce qu'il n'était pas convaincu de son innocence. Il a réaffirmé au contraire ses précédents commentaires selon lesquels les 2 millions de dollars étaient tout ce que l'État pouvait se permettre. Cette absence de communication et d'empathie de la part des responsables politiques a exacerbé le sentiment d'abandon de Kathleen et a été source de frustration pour elle et ses avocats. Elle a exprimé son besoin d'une reconnaissance officielle des injustices qu'elle a subies et a souligné le fait qu'aucune excuse officielle ne lui avait été présentée par le gouvernement.
Voilà, donc maintenant que Kathleen Folbig est sortie de prison et a obtenu une indemnisation, elle voudrait à présent sensibiliser le public aux erreurs judiciaires, c'est ça ?
Malgré la victoire judiciaire, le chemin de Kathleen vers la guérison est semé d'embûches. Elle s'est exprimée ouvertement sur ses luttes émotionnelles, notamment en ce qui concerne le deuil de ses enfants. Kathleen a insisté sur le fait qu'ils existent encore dans sa mémoire et qu'ils méritent d'être honorés et respectés. Sa lutte pour la compensation et la reconnaissance est également devenue une plateforme pour sensibiliser le public aux erreurs judiciaires et aux blessures laissées par la stigmatisation. À long terme, Kathleen a pour objectif de soutenir ceux qui, comme elle, ont été victimes d'erreurs judiciaires et de faire avancer la sensibilisation sur l'importance des tests génétiques dans des affaires de ce type. Elle aspire à transformer son expérience douloureuse en un levier pour le changement et pour aider ceux qui affrontent des défis similaires.
Merci beaucoup François Ventum.
Il y a comme un goût amer en nous. Pas comme avant.
Évidemment, évidemment, c'est France Gall sur Radio SBS. Messieurs, dames, on marque une très courte pause, on se retrouve dans un instant et on va parler du festival qui s'invite à Melbourne, Now or Never. C'est la 4e édition déjà. Ça commence dans quelques jours et la directrice artistique Élise Perronnet est venue nous en parler en studio.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Nous sommes en studio avec Élise Perronnet, la directrice artistique du festival Now or Never qui se déroule à Melbourne du 21 au 31 août. Bonjour Élise.
Bonjour Marianne, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors, on vous a déjà interviewé il y a 2 ans, c'était le lancement du festival, maintenant c'est la 3e édition, on va en parler. Now or Never, ce sont des idées, de l'art, des sons, des technologies. En somme, c'est un festival de nouvelles dimensions. Il y a de la musique, des installations, des panels de conversation, des projections de films, des collections, des artistes, j'en passe. 11 jours, 140 événements, 285 artistes. Élise, je viens de faire un résumé très sommaire du festival, vous ferez sûrement plus honneur à Now or Never en nous en parlant vous-même.
Bah oui, c'est une bonne, un bon résumé du festival, oui. 3e édition déjà, c'est un festival qui se répand dans toute la ville, qui vraiment transforme un peu tous les grands lieux publics de Melbourne ou du CBD, avec des œuvres un peu d'envergure. Il y a beaucoup d'événements gratuits cette année, on a fait beaucoup d'événements publics pour essayer de vraiment d'activer en fait la ville du mieux qu'on peut. Beaucoup de musiciens, d'artistes numériques, des créatifs, des journalistes qui viennent aussi parler un petit peu de la technologie, de la créativité et de toutes les problématiques que ça peut engendrer, dont on parle en ce moment, l'IA notamment. Mais nous, on essaye aussi de montrer le côté un peu positif finalement de la technologie. Donc par exemple, cette année, nous avons une projection, un vidéomapping sur la façade du State Library of Victoria, tous les jours, tous les soirs, à partir de 6h du soir jusqu'à 10h du soir, une projection d'un studio de Barcelone qui a créé cette œuvre justement avec l'IA et qui est très immersif aussi. Donc ça, ce sera projeté sur la façade de la State Library.
Comment vous avez choisi la programmation? Parce qu'il y a tellement de choses à voir durant ces 10 jours. Est-ce que vous avez fait le programme par date, par thème, par lieu?
Toujours par lieu. Je commence toujours par les lieux, c'est vraiment ce qui m'inspire. Aussi, puisque travaillant dans la ville de Melbourne, nous avons vraiment accès à des lieux assez uniques et ça a toujours été un peu la ligne directrice du festival. Trouver des lieux et de les montrer sous un autre jour. Donc par exemple, un des lieux cette année où nous retournons au Royal Exhibition Building qui est juste en face du Marlborough Museum. Mais cette année, nous allons présenter cette installation immersive du studio Penique, qui est aussi un studio de Barcelone, qui fait vraiment des installations absolument à grande échelle, vraiment intéressante. C'est une installation qui sera gratuite, qui va transformer l'intérieur du bâtiment à l'aide d'un immense gonflable rose monochrome. Donc les gens pourront rentrer à l'intérieur de cet espace. Nous avons aussi un programme en fait qui va accompagner cette installation. Donc pendant certaines matinées, nous allons travailler avec The Breath House, qui est un studio qui est connu ici à Melbourne pour justement des sessions de breathwork, vraiment de relaxation, etc. Donc ça, c'est 2 matins pendant le festival. Et nous avons aussi un programme nocturne avec des performances musicales, notamment d'une artiste, Roxy Moore, qui est française, qui vient de Montpellier, qui vient donc présenter une performance dans ce lieu au Royal Exhibition Building et aussi à Marlborough Town Hall.
Et on l'a dit, plus de 280 artistes, vous avez parlé de 2 artistes de Barcelone, une artiste française, il y a aussi évidemment beaucoup d'artistes locaux. Comment vous les choisissez? Comment vous les mettez à l'honneur?
Je sais ce qui peut marcher ici à Melbourne. Une fois de plus, je pense vraiment au lieu que nous avons. Donc, je viens de parler du Royal Exhibition Building, le Marlborough Town Hall, qui est vraiment aussi un lieu qui est assez aussi unique à Melbourne et que peut-être les gens ne connaissent pas forcément parce que souvent, il n'y a pas souvent des événements artistiques ou culturels qui ont lieu dans cette salle. Donc, là aussi, nous allons présenter un artiste qui s'appelle Boris Hackett, qui est hollandais et qui fait vraiment des œuvres cinétiques, des installations vraiment à nouveau à grande échelle, et ça a été conçu spécialement pour le Marlborough Town Hall. C'est une œuvre cinétique de 20 mètres qui mêle son et lumière, et c'est en fait un énorme textile en fait flottant qui va être synchronisé en fait à la musique. Il va aussi créer une œuvre sur l'orgue qui s'appelle le Grand Organ. Ça va être non seulement un peu le backdrop du programme musical, mais aussi une installation à part entière.
Là, vous venez de nous présenter beaucoup de nouveautés pour cette 3e édition. Est-ce qu'il y aura aussi des choses qu'on a déjà vues dans les 2 premières éditions?
Non, mais c'est toujours une fois de plus revisiter peut-être des lieux que nous avions présentés l'an dernier, mais sous d'autres formes.
D'accord, donc c'est vraiment une édition inédite, un nouveau festival Now or Never comme on l'a jamais vu. Sur notre antenne en 2023, vous disiez, c'était la première édition de Now or Never, vous lanciez votre nouveau festival, vous disiez que votre ambition c'était de vous insérer dans le programme culturel de Melbourne qui était déjà riche. Paris réussi.
Oui, Melbourne, c'est pour ça qu'on aime cette ville. C'est une ville qui est vraiment charmante de ce côté-là, avec tellement de festivals toute l'année. Même le programme en hiver est aussi assez chargé. Oui, je pense qu'on a réussi, j'espère, en 2-3 ans, à vraiment s'imposer dans une autre optique et de présenter quelque chose de vraiment nouveau. Pour nous, c'est vraiment devenir une plateforme un peu globale pour des artistes locaux et internationaux qui utilisent la technologie dans leurs œuvres, dans leur création.
On sent l'humilité dans votre voix, Élise, mais en 2 ans quand même, il faut le dire, hein, 400 000 personnes attendues cette année, c'est le double de ce que vous attendiez la première année. 14,6 millions de dollars de recettes l'année dernière, 1000 emplois créés juste pour l'occasion. On peut quand même parler d'une véritable success story, non ?
On verra cette année, on verra. J'espère que les gens viendront. On essaie de vraiment d'avoir un programme qui est accessible aussi dans un sens. Je parle vraiment de l'art et technologie. Ça peut paraître un peu hermétique peut-être au public, mais justement, on essaie vraiment de placer des œuvres vraiment au centre de la ville et des œuvres gratuites pour que les gens puissent vraiment venir et voir un peu Melbourne sous un nouveau jour peut-être.
Et justement, vous parlez de Melbourne, puisque c'est un festival qui se déroule à Melbourne. Vous avez une volonté à plus long terme de vous exporter au-delà de Melbourne ?
Je ne sais pas de s'exporter, mais nous travaillons vraiment en collaboration avec beaucoup de festivals qui sont à l'étranger, donc à Berlin, Sonar, un festival à Barcelone. Nous avons vraiment des réseaux, nous essayons de partager des œuvres entre les différents festivals. Effectivement, l'ambition dans le futur et pour l'an prochain aussi, c'est de créer des nouvelles œuvres ici et de pouvoir, avec des artistes locaux, et de pouvoir faire voyager ces œuvres justement à l'étranger et de les présenter dans ces festivals.
Vous avez évoqué l'édition 2026 et en 2023, vous nous disiez que ça faisait déjà un an et demi que vous travailliez sur l'édition 2023. Est-ce que vous avez déjà les yeux rivés sur l'année prochaine ou là, vous êtes totalement concentré sur le festival 2025?
Ah oui, ça paraît un peu dingue et un peu pas vraiment logique, mais effectivement, non, vraiment, c'est 2026 et des fois même déjà 2027, ce qui paraît un peu dingue, mais c'est ça, c'est de faire un peu la gymnastique de pouvoir continuer à se concentrer sur cette année et aussi de pouvoir réfléchir à l'an prochain. Nous avons des artistes qui vont venir cette année qui vont peut-être pouvoir présenter quelque chose dans le futur. Donc c'est vrai que ça se planifie longtemps à l'avance, ce genre de festival.
Et j'ai une dernière question, Élise, c'est sur l'empreinte écologique d'un festival. On sait que écologiquement, un festival, ça peut être assez désastreux, mais Now or Never essaie quand même de faire un pas en avant sur ce sujet.
C'est vrai que c'est un objectif aussi principal de la mairie de Melbourne d'avoir des objectifs pour limiter l'empreinte carbone Now or Never et certifié carbon neutral. Donc dans le cadre du Climate Active Program qui est financé par le gouvernement australien. Donc effectivement c'est un travail assez laborieux avec tous nos partenaires de pouvoir faire l'inventaire de toutes les consommations énergétiques et consommations de manière générale après le festival. Donc tout ça est recensé dans un sens et ensuite est offset.
Élise Perronnet, vous êtes la directrice artistique du festival Now or Never, on le rappelle. Ça se déroulera à Melbourne du 21 au 31 août 2025. Merci beaucoup.
Merci Marianne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est pas moi qui sers autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère. C'est bien fait pour nous, si nous manquons d'air, paix qui sort de son trou, c'est lui de ses galères, c'est tout
ces écrous, c'est pas moi qui sers.
Vous connaissez bien cette chanson maintenant sur les ondes de Radio SBS puisqu'elle fait partie de notre sélection musicale autour de ton cou, Stéphane Echer. Hier, on parlait climat, et bien on continue aujourd'hui en parlant développement durable. Être récompensé pour sa bonne action durable, est-ce que ça vous tente? J'imagine que oui. Et bien c'est ce que met en place l'entreprise Aetium qui cherche à démocratiser les crédits carbone. On a reçu en plateau Ben Francou, le directeur de la stratégie produits et technologies. Il nous explique sa lutte contre le changement climatique et comment chacun a un rôle à jouer dans l'action climat.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en studio avec Benoît Francou. Ben, bonjour.
Bonjour Marianne.
On s'est rencontrés à la conférence Lumière Verte lors de Bastille Day. C'était une conférence dédiée à la place des femmes dans le secteur de l'énergie. Et on a discuté de vous, Ben, de votre métier, de vos ambitions pour le climat ici en Australie. Vous faites ça depuis longtemps et notamment depuis bientôt 2 ans avec Aetium. Expliquez-nous le but de cette entreprise.
Alors Aetium, ça vient d'un entrepreneur qui s'appelle Christopher Ride, qui veut dédier le reste de sa vie au climat. Il a 2 ou 3 sociétés qui permettent de réduire ou de capturer le carbone. Des sociétés de technologie, des fermes, des fermes de kelp. Il a des projets aussi de stations de chargement de véhicules électriques dans l'arrière-pays. Plein d'idées. Et alors, Aetium, c'est ça crie A-E-T-I-U-M. L'idée, c'est de démocratiser l'accès au crédit carbone. Parce qu'aujourd'hui, le crédit carbone, qui est une sorte d'étape nécessaire à la transition net zéro, qui permet de financer des projets pour, par exemple, la reforestation, les énergies non renouvelables, parce qu'il y a des émissions qu'on ne peut pas réduire. Tant qu'on voudra voyager, retourner à Paris en avion, eh ben, il y aura des émissions. On ne peut pas arrêter tout du jour au lendemain. Le marché du crédit carbone, il est là pour permettre une transition, pas asphyxier les entreprises qui ont des émissions, qui veulent les réduire, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'inconvénient du marché aujourd'hui, c'est que c'est un marché très fermé aux grandes entreprises. Et donc du coup, si on n'implique pas ou ne responsabilise pas tout le monde, eh ben, ça va prendre beaucoup plus de temps.
Est-ce que vous ne visez que les entreprises, voire les entreprises qui vous paraissent tellement inatteignables que c'est votre seul objectif ou aussi tout à chacun?
C'est plutôt l'inverse. On voudrait presque renverser la pyramide en permettant à tout le monde, donc vous, moi, les petites entreprises, de participer. On a créé une plateforme qu'on appelle le Sustainability Platform. On a des actions climat tous les jours. Par exemple, conduire un véhicule électrique, avoir des panneaux solaires qui fonctionnent, avoir une parcelle de forêt qu'on maintient, qu'on fait grandir, qu'on entretient. Ça, c'est des actions de climat qui participent ou à la réduction carbone ou à la séquestration. Et en gros, si on essaye de comprendre d'où vient le carbone, les excès de carbone aujourd'hui, ça vient de la production d'électricité et du transport, à 80%. Et donc, en permettant à des propriétaires individuels ou des petites entreprises de transformer leur production d'énergie solaire ou leur kilomètre vert, entre guillemets, en véhicule électrique, on veut pouvoir leur donner des crédits carbone. Donc, ils génèrent des crédits carbone chaque année.
Être récompensés, voilà, en faisant une bonne action.
Exactement. Et chaque année, en vendant ces crédits carbone, ils auront un nouveau revenu qu'ils pourront utiliser pour améliorer leur installation, par exemple, ou acheter...
Ils peuvent transformer leur crédit carbone en argent.
Voilà.
Payé par Aetium.
Oui.
OK. Et pour que ce soit très concret, une personne, un individuel tout seul et une grosse entreprise, plus de 500 salariés. Qu'est-ce que vous attendez d'eux en gestes écolo et à combien de crédits carbone ça correspond?
Aujourd'hui, un système solaire qui fait à peu près 30 panneaux solaires, c'est 10 kilowatts, ça peut générer $500 par an à peu près. Au prix du marché. Nous, on pense qu'on peut prouver notre intégrité. Tout est enregistré sur la blockchain. Donc, c'est traçable de A à Z. Et à l'inverse du marché qui est prospectif, qui fait des estimations sur ce qui peut se passer, nous, on regarde toujours dans le rétroviseur. On ne reconnaît et récompense que ce qu'on peut mesurer. Et c'est un peu l'innovation. C'est qu'on peut prouver notre intégrité chaque année parce qu'on ne récompense que ce qui est observable. La première ressource d'une entreprise, c'est ses employés. Et il y en a beaucoup qui veulent montrer qu'ils ont du leadership pour l'action climat. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de le faire. On a créé une sorte de modèle privé de notre système qui permettrait à une entreprise de, par exemple, dire bah, « je veux que tous mes employés, ils enregistrent leurs panneaux solaires, leurs véhicules électriques sur notre plateforme et qu'on puisse acheter les crédits carbone qu'ils auront générés à la fin de l'année. » Et du coup, ça crée une sorte de, en interne, un nouveau bénéfice, dans benefit, employee benefit. Et ça permet à l'entreprise de reconnaître et de récompenser ces choix durables faits par leurs employés.
Une entreprise comme Aetium, elle est bien reçue dans un pays comme l'Australie ?
Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que le marché du carbone, il est tellement fermé que peu de gens comprennent. Donc on a un gros travail d'éducation. Par contre, à tous ceux à qui on parle, qui sont dans cet univers, ils comprennent très bien où est-ce qu'on s'intègre. Notre objectif, c'est d'arriver à démocratiser l'action climat. Ce n'est pas de dire, tiens, on veut faire de l'argent sur le marché du carbone. On est effectivement un marketplace, mais on veut permettre à la communauté, les gens, les petites entreprises, de participer. Parce que si on ne responsabilise pas tout le monde, eh ben, ça va prendre 10 fois plus de temps. On ne peut pas le laisser qu'au gouvernement ou qu'aux grosses entreprises qui se nourrissent d'administratifs. Pour soumettre un projet carbone, c'est un an de travail. Les audits, c'est hyper cher. Donc du coup, bah, ça limite tout de suite le nombre d'entreprises qui peuvent jouer. Et du coup, bah, ça empêche, ça asphyxie en fait tous les autres qui voudraient participer.
Et pour autant, au fil des années, vous diriez que ça va dans le bon sens ?
Pour reprendre l'exemple de la forêt, par exemple, j'ai lu que depuis que les colons anglais sont arrivés en Australie, la surface de la forêt a diminué de moitié.
Donc pas dans le bon sens.
Alors ça c'était
premier fait.
En prenant cette baseline. Mais depuis quelques années, c'est stable. Et ça, c'est légèrement en croissance. Et nous, c'est ce qu'on veut encourager au niveau de la forêt. Vous aurez sûrement des détracteurs qui disent « Ah, mais vous récompensez des forêts existantes. » Sauf que si on ne le fait pas, elles n'ont pas de valeur. Et si elles n'ont pas de valeur, ben, elles sont coupées. Prenons l'exemple de fermiers qui font le choix de couper des arbres pour mettre des bêtes, ils le font parce que bah, quand on fait les comptes, ils y ont tout intérêt. Si on commence à leur dire bah, « gardez vos arbres, mettez des clôtures et on va vous rémunérer pour les maintenir », ça va mécaniquement orienter les choix. Nous, c'est ce qu'on veut faire par rapport aux forêts et on travaille avec des NGO, des local councils, des state governments pour arriver à transformer les forêts en assets, pour que ça soit valorisé comme tel et que bah, qu'on réfléchisse à deux fois avant de faire des projets immobiliers où on coupe 200 hectares de forêt. Quoi.
Merci beaucoup Ben Franco.
Mon plaisir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
De fuir le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux.
Des souvenirs apaisants et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Quand Grand Corps Malade mêle sa voix à celle de Kimber Rose, eh bien ça donne Nos plus belles années et c'est magnifique. Voilà, c'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est mardi, même fréquence, même heure, avec un journal présenté par Jean-Noël Ducasse. Quant à moi, je vous souhaite un merveilleux dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.